Jean-Pierre Mocky, bonsoir.
Bonsoir.
On est très content d'avoir ce petit entretien avec vous pour Radio Apple Pie. Très content et diverti parce que je considère, donc je serai hélas la seule personne interviewée ce soir, mais en tous les cas je considère que vous êtes une voix singulière du cinéma français. Et par ailleurs, je suis assez impressionné par votre passion, votre ferveur, votre obstination à continuer à tourner des films malgré les problèmes de distribution que vous avez évoqués à de nombreuses reprises, ainsi que les problèmes financiers. Moi, ce dont je souhaiterais parler un petit peu avec vous, c'est pas Raymond Queneau, dont on a beaucoup parlé lors de l'entretien public qui a précédé. C'était plus précisément, en fait, la première fois que je vous ai vu, c'était au Havre il y a quelques années. Vous étiez venu à un cinéma qui s'appelle le Sirius,
oui, exact,
existe toujours, et vous étiez venu présenter justement deux films. Il y avait La Cité d'Indicible Peur,
oui.
Et à la suite, il y avait Litan.
Oui, qui vient de sortir ce matin en DVD.
Dans la collection.
Dans ma collection, il est sorti ce matin. La première, on en a vendu 12 aux Champs-Élysées ce matin.
On parlera de la collection tout à l'heure. Et quand j'avais vu ces deux films, enfin Litan, je le connaissais déjà, mais quand j'ai vu ces deux films, j'avais trouvé très intéressant de les rapprocher dans la mesure où ce sont deux films fantastiques, à des degrés, en fait avec des approches diverses. Et Litan m'avait beaucoup frappé quand j'étais enfant, parce que par rapport à La Cité de l'Indicible Peur, qui est plus un film humoristique, qui est beaucoup bâti sur la loufoquerie, la satire ou l'absurde, Litan est un film qui traite vraiment de croyances, d'irrationnel. Et je crois que c'est un film qui vous tient beaucoup à cœur.
Oui, mais moi j'aurais pu, comme si j'avais été à Hollywood en 1937, j'aurais certainement fait partie de cette équipe qui a tourné L'Homme Invisible, Frankenstein, Dracula et toutes les étranges créatures du lac noir, enfin toute une série de films, car j'étais passionné par la science-fiction et par le fantastique. Mais malheureusement, en France, les films fantastiques se comptent sur les doigts d'une main, parce que la Cinémathèque de Toulouse vient de rendre hommage à ces deux films justement dont vous parlez, La Cité d'Invisible Peur et Litan. Il vient d'être projeté dans le cadre du cinéma fantastique français. Et ils n'ont jamais réussi à tirer plus de 6 titres. Donc, l'assassinat du Père Noël, Les Disparus de Saint-Agile, Sortilège de Christian Jacques. Curieusement, Christian Jacques, qui était un metteur en scène très commercial, avait été le seul à faire 3 films fantastiques. C'est assez extraordinaire que ce soit un mec qui faisait des films de tous les jours, des conneries, des fernandelleries, des choses comme ça, qui finissaient par faire les seuls films fantastiques français. Alors, évidemment, on peut compter aussi sur les premiers films de Fantomas,
de Feuillade,
mais enfin, c'est plus éloigné, ça. Alors, donc, voilà. Alors, moi, j'ai essayé, et comme j'ai été fasciné par L'Assassinat du Père Noël, j'adorais L'Assassinat du Père Noël et Les Disparus de Saint-Agile. Et quand j'étais le secrétaire d'Eric von Stroheim, il me parlait souvent de ce rôle qu'il avait fait de son professeur dans Disparu de Saint-Agile, et Michel Simon m'en parlait aussi. Donc c'était des films qui frappaient beaucoup à l'époque, parce que c'était une tentative de film fantastique en France, où la cité se passe dans un pays de sorciers, parce que le Cantal, il y a des vrais sorciers dans le Cantal, et il y a beaucoup dans les marais Poitevin, tout ça, il y a beaucoup de gens qui se piquent de sorcellerie. C'est le seul endroit où il y a de la sorcellerie, avec la bête du Gévaudan. Mais en fait, c'est toute cette région du centre de la France qui est réputée pour les sorcelleries, les machins. Puis aussi les guérisseurs, ça va ensemble. D'ailleurs, les guérisseurs et les sorciers, c'est un peu...
J'avais lu une anecdote justement sur La Cité d'Indicible Peur, il me semble.
Oui, un mec
un sorcier
nous a foutu... oui,
du Cantal
ça,
aurait volé la
ville. Oui, c'est vrai. Non, c'est-à-dire qu'il y avait, dans la ville où on a tourné, il y avait un ivrogne qui se prétendait justement sorcier. Et il voulait faire de la figuration dans le film. Et comme il était ivre tout le temps, on n'avait pas voulu lui donner quelque chose. On s'est dit, il fera un truc, après il ne reviendra plus, alors il ne raccordera pas, etc. Donc on l'avait viré. Et quelques jours après, la pellicule, sur chaque fois qu'on recevait la pellicule de Paris, il y avait une espèce de luminosité, une petite lumière, comme un feu follet. qui étaient sur ces, certaines scènes. Et il fallait les recommencer. Et alors, le laboratoire ne comprenait pas ce que c'était, parce que ça n'arrive jamais qu'il y ait, la pellicule est bonne ou elle est mauvaise, mais il n'y a pas brusquement une étoile lumineuse à un moment, puis plus rien. Il y a ça dans certains cimetières, et on l'explique par des... par des questions de gaz, il y a une explication à ça. Par contre, là, il n'y en avait pas. Et alors, il y a un gars qui était un peu superstitieux, qui était dans la troupe, un technicien qui nous a dit, ça vient du sorcier. Allez, bon, alors on a engagé le sorcier. On l'a mis, il était toujours ivre, on l'a foutu dans un coin du décor, et puis du jour où il est revenu, il n'y avait plus de lumière. c'est une histoire vraie. Alors, est-ce que c'était... Je sais pas ce que c'était, on n'a jamais su. Mais c'est vrai que il y avait des vieilles femmes qui croisaient les doigts comme ça. Moi, je mangeais dans... ce qui est marrant en Auvergne, c'est que vous mangez en étage. C'est-à-dire, c'est un des rares pays, comme à Naples d'ailleurs. À Naples, ça, c'est un point commun, parce qu'à Naples, il y a des restaurants. Vous montez dans un immeuble et au deuxième étage de l'immeuble, vous avez un restaurant. Mais le restaurant, c'est des gens comme vous et moi qui le tenaient. C'est pas des, y a pas de serveur, c'est des bonnes femmes avec un tablier. Et puis elles font la cuisine comme si vous alliez manger chez quelqu'un. Et en Auvergne, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que vous avez des étages avec des bonnes femmes qui font de la cuisine. Les restaurants ne sont pas forcément au rez-de-chaussée avec une enseigne, etc. Et là, il y a des dames qui sont... Et je m'en suis beaucoup inspiré dans le film pour le bordel et tout ça. Les bordels sont dans des maisons, comme ça. Tout se passe dans des maisons.
Monsieur Alain Milianti, directeur.
Bonjour. Bienvenue dans cette maison.
Bonjour.
Content de vous voir ici.
C'est votre maison, ça, ma femme. C'est... Voilà, ben écoutez, bravo. Bravo pour votre maison.
Bon, vous savez... Pas grand chose, je suis que le directeur.
Mais le bar est très somptueux, c'est un bar somptueux.
Ah, le bar, ça oui, non, le bar,
vous
ça
avez
oui.
Un bar digne du genre.
Quand je suis arrivé, il n'y avait pas de bar, j'ai trouvé que c'était insupportable de faire du théâtre dans une maison où il n'y a pas de bar.
Ah, et là, donc, c'est beau, hein, c'est un beau bar. Je croirais dans un hôtel de 3 et 4 étoiles.
Il y a un quatrième en bas, moi j'ai toujours dit en fait.
Oui, ça fait 3 bars.
Pour en revenir à Alitan, c'est un film qui est très ancré dans le folklore de l'Europe de l'Est en fait.
Enfin, vous savez, Polanski et moi, on est originaire du même pays et Roman, s'il a fait Rosemary Baby, le bal des vampires, c'est pas pour rien, c'est parce qu'en fait nous avons vécu pendant les fêtes de Noël en Pologne, à Cracovie, dans le quartier juif, mais même en dehors du quartier juif, il y avait, si vous voulez, une journée qui était destiné à l'éjaculation des employés. En fait, j'appelais ça comme ça, c'est-à-dire que les employés, que ce soit des fermiers ou même des employés d'une usine ou n'importe quoi, avaient le droit, une fois par an, de revêtir des masques de mort, des faux, des têtes de cochon, des têtes, et d'aller faire peur à des patrons, ou à la famille des patrons. Parce que c'était un assez... Là, ici, aujourd'hui, c'est le football qui tient ce rôle, c'est-à-dire les gens viennent gueuler au football, casser la gueule à des gens pour éjaculer tout ce qu'ils n'ont pas pu dire dans la semaine à leur patron, etc., toutes les vexations qu'ils ont eues, ils les ressortent au stade.
Et c'est là, l'exutoire du carnaval.
Voilà, alors là, l'exutoire dans les pays de l'Est, c'était ça. Une fois par an, il y avait une journée où les employés pouvaient cracher la figure du patron, etc. Et comme ça, ils étaient tranquilles pendant un an et l'année d'après, ils recommençaient. Et c'est à la faveur de ces fêtes qu'il y a eu, que l'Itan est né. C'est au cours d'une fête comme ça que nous avons recréé cette atmosphère. Mais cette fois-ci, dans une région assez bizarre, qui était une région d'Annonay, qui est la seule ville qu'on a trouvée où il y avait cette espèce de côté poisseux avec les bêtes, les peaux de bêtes, et qu'on faisait des tanneries, ce qu'on appelle les tanneries, ça pue là-dedans, c'est dégueulasse. Et voilà, alors on a choisi ce pays et on a créé des cimetières, on s'est servi des rivières de l'Ardèche, etc. Et on a créé ce milieu-là, ce monde-là. C'est un film que je revendique, mais si vous voulez, c'est un film qui a eu le Grand Prix à Boreas, mais je veux dire, c'est, c'est un film sur lequel il y a une autre légende, c'est que Georges Lautner, qui est un brave garçon que j'aime beaucoup, a giflé Brian De Palma. C'était à l'occasion de ce prix que j'ai eu, parce que, si vous voulez, l'année où j'ai eu le prix à Voriaz, il y avait dans le jury Georges Lautner, il y avait donc De Palma, et puis cet homme que je n'aime pas beaucoup, mais que tout le monde aime, qui s'appelait La Forêt d'Émeraude, c'est Borman. Il y avait John Borman. Alors, il y avait Brian De Palma pour l'Amérique, il y avait un Italien, je ne sais plus qui c'était, il y avait Lautner comme Français, puis il y avait Jeanne Moreau, enfin il y avait. Et pendant la projection, alors qu'ils faisaient partie du jury, ils ricanaient. Tous les deux, ils étaient assis parmi le jury. Mais le jury, là, comme à Cannes d'ailleurs, il n'était pas séparés, c'était pas des jurys qui voyaient le film tout seul. C'était des jurys qui étaient assis parmi les spectateurs. Il y avait un rang réservé aux jurys, puis les autres c'était des spectateurs. Or, comme ils ricanaient, ils gênaient, si vous voulez, les gens qui voulaient voir le film, qui n'avaient pas du tout envie de ricaner. Mais le fait d'entendre dans un film fantastique, dramatique en principe, des rires dans le jury. Et quand la projection s'est arrêtée, Georges Lautner, qui est un type sanguin, il a attrapé, maintenant il fout une paire de balles, parce qu'il lui a dit, tu es jury, tu n'as pas le droit de te foutre la gueule d'un des films qui est présenté. Et c'est un ignoble personnage, Brian De Palma. D'ailleurs, je l'ai constaté par la suite, c'est une ordure en maison, mais tout le monde le dit, il n'y a pas que moi. Hein. Moi, j'aurais des raisons de le dire, mais c'est un type qui est haï, mais haï par ses techniciens, par tout le monde, il est haï. Ce qui n'était pas le cas de Kubrick, parce que Kubrick avait un caractère impossible. Moi, j'étais dans son château en Écosse, et il avait un caractère impossible, mais il était aimé. Parce qu'il y a les gens qui ont des caractères impossibles qui sont aimés, et les gens qui ont des caractères impossibles ne sont pas aimés. Brian De Palma, alors, normal, tu ne le connais pas. D'ailleurs, je me demande dans quelle mesure Borman était coupable, parce que c'était l'autre qui l'entraînait. Quoi. Alors, L'Itan, donc, voilà. Alors, L'Itan, c'est un film fantastique. Et là, je vais faire un film gore, là. Alors là, c'est encore autre chose, films gore.
Ça m'intéresse énormément.
Films gore, parce que j'en ai jamais fait, et je travaille avec Kurt. Parce que, en fait, André Ruellan, qui fait mes films, et qui a donc fait avec moi Grabuge et beaucoup d'autres, eh bien, c'est Kurt Steiner. Et Kurt Steiner, c'est son nom de combat, il fait des gores et des science-fiction. Donc on a décidé de faire un gore, parce que j'ai pas ça dans mon... pas fait de gore pour le moment.
Comment se fait-il que vous abordiez le cinéma gore, justement? Parce que moi, je me rappelle d'une interview que vous aviez donnée à un magazine qui s'appelle Mad Movies, il y a une bonne quinzaine d'années, dans lequel vous disiez que vous n'étiez pas pour la censure des films hyper violents, hyper sanglants, mais que vous trouviez qu'il y en avait trop, à votre goût, tout du moins.
Oui, ben, c'est-à-dire que, si vous voulez, Sam Raimi, que je connais personnellement, il m'avait présenté son premier film, Evil Dead, le premier, pas les grands qu'il a fait par la suite, ou Romero. Ces gens-là, si vous voulez, ils travaillaient avec de la peinture rouge, ils délayaient dans un pot, etc., et ils en foutaient, ils coupaient des têtes avec des fausses têtes, des trucs comme ça, ils coupaient la tête des mains, tout ça. Et il y a des moments où, évidemment, parce qu'ils n'avaient pas encore d'argent, etc., ils n'étaient pas sur des budgets comme Carpenter ou les... Et alors, ils faisaient ça un petit peu. Alors moi, je travaille quelquefois comme ça aussi, mais pas avec des effets spéciaux. Alors, ils avaient une tête qui roulait. On voyait bien que c'était la tête d'un mannequin avec un peu de tomate dessus. Alors j'ai dit un jour, dans un journal, Mad Movies, j'ai dit, moi, je ne ferai jamais un film comme ça. Et je trouvais qu'il y a trop de sang, parce que, voilà, c'est tout, parce qu'ils en mettaient beaucoup, mais ils mettaient ça à la cuillère, même à la louche, quoi, ils lançaient du sang, de la peinture, tout ça. Et autrement, moi c'est un gore un peu spécial que j'ai, moi, après on a trouvé une histoire fantastique qui était... C'est formidable.
C'est-à-dire, est-ce qu'il y aura des ingrédients de comédie dedans?
Ah non, non, c'est un film vrai, vraiment. Vraiment, ça fait très, très peur.
Et dans vos sorties DVD prévues
ben, ils sont sortis hier.
Oui, oui.
Mais il n'y en a plus. Il y a déjà
un film porno. Votre porno est prévu.
Et c'est exactement ce que j'avais demandé. Alors, parce que quand on parle de porno, on n'est jamais loin de la pornographie.
Non, le film porno, c'est.
Pensez à l'exception.
Non, mais si vous voulez, le film porno, c'est une vieille histoire qui date de ce connard de Giscard d'Estaing. Parce que. En 1973, Giscard d'Estaing a décidé d'autoriser les films X. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que tous les directeurs de salle se sont dit on préfère passer un film porno qu'un film d'auteur abscon que personne ne comprend, etc. Ce qui était le cas à l'époque. On avait beaucoup de films de Nouvelle Vague, mais des films de sous-Nouvelle Vague et qui voulaient sortir des petits films chiants, etc., qui n'étaient pas du tout du Truffaut, mais du sous-sous-Truffaut. Alors, les directeurs de salles, et même de salles d'arrêt d'essai, ils se sont dit, on va passer du porno. Ce qui fait que, puisqu'on
même
est autorisé. Ah oui, oulala, et il y en a eu plein. Et alors, en particulier, c'est le Jean Renoir qui passait du porno, Jean Renoir, à Paris. Alors, donc, nous, on avait ces salles comme des bouchers. C'était des salles à nous. C'était nos salles. Et brusquement, on a vu une dizaine de salles parisiennes, au lieu de passer nos films à nous, des films d'auteurs, mais d'auteurs comme moi, pas trop chiants, et ils passaient du porno. Alors on s'est trouvé privé d'écrans dans lesquels les Solo étaient sortis. Alors Solo était sorti justement dans un circuit qui était devenu, en 73, un circuit de porno. C'est-à-dire sur les 4 salles que j'avais pour sortir Solo, il y en avait 2 qui étaient devenus porno, le Vivienne et le Jean Renoir. Alors, en réaction, j'ai dit, mais je vais faire un film porno. Et j'ai fait un film porno, mais il était trop bien. C'est-à-dire, il était vraiment très artistique, parce que j'avais un grand opérateur et un bon musicien. Et ça ne marche pas. Il n'y a que les films porno crades qui marchent, pas les films porno de luxe, ça ne marche pas. Ça marche pas. Alors, on a fait le film. Et la fille qui jouait dedans, c'était une fille qui travaillait avec Jean-Louis Barrault. Alors, c'est vous dire.
Oui, c'est ça, c'était la.
Ouais, c'était une fille de.
C'était Renaud Barrault, apparemment.
C'était une épique. Voilà, c'était une fille qui était venue se présenter, une fille qui participait à la troupe de Jean-Louis Barrault. Donc, on était étonnés. Une belle fille, d'ailleurs. Et elle a joué le rôle principal. Mais après, elle s'est mariée avec un type qui a racheté le film. C'est pour ça qu'il n'a jamais été. Il n'a jamais été. Et ça rappelait une vieille histoire d'Élie Lamarre. Extase, qui était un des premiers films où une femme nue apparaissait à l'écran, et le mari l'a racheté. Et puis après, Anne Parillo a été rachetée, et Ariel Dombal, qui faisait du porno, a été rachetée aussi. Ils ont tous été rachetés après par les. Parce que ça vaut pas cher un film porno à racheter. Ça vaut 50 000 euros maximum. Donc les gars ont vendu les négatifs aux fiancés des femmes qui avaient participé à ces trucs-là.
Ariel Dombal, c'était un film de Suvi Terayama, si je ne me trompe, qui est l'esprit de la passion.
Non, moi je ne veux pas dire Ariel Dombal, moi je n'ai pas vu, mais c'est ce qu'on m'a dit. Alors ne me faites pas dire ce que je dis. Moi c'était officiellement elle. Mais est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, j'en sais rien.
Donc, en fait, ce film n'a pas été conçu comme un canular. En fait, c'est un film de Jean-Pierre Mocky que vous continuez à revendiquer.
Non, mais moi, je ne m'appelais pas dans ce film parce que je ne pouvais pas m'appeler comme ça. Je m'appelais Serge Batman. Voilà comment je m'appelais. Voilà, j'avais un masque parce que j'avais
même peur.
Si, moi, j'en ai une copie, mais on peut le voir dans l'intimité. Je pourrais le projeter. À des copains comme ça intérieur chez moi, mais je peux pas l'exploiter puisque le type a racheté le négatif.
J'ai lu quelque part qu'il y avait de courts extraits qui étaient disponibles sur un des DVD de votre collection à titre de bonus.
Je crois qu'il y en a, il y a un bonus qui va avoir quelques images de ça, mais c'est à l'époque on faisait pas de making of, c'est juste quelques images qu'on a gardées. Bon, je sais pas, ça passera, ça passera pas. De toute façon, on est obligé de mettre un. Sur la tête de la fille, on est obligé de mettre un rond noir, si on le fait. C'est ce que je disais tout à l'heure, là, avec l'évêque et tout ça. Je sais pas, vous étiez là, oui. Donc,
c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des fois où la censure me demande de... Mais montrer quelqu'un, c'est comme à la télé, quand il y a quelqu'un qui arrive, on lui met un espèce de truc sur la tête, on ne sait plus la tête qu'il a, une espèce de masque.
Et sinon, parlons porno et salle de cinéma, vous êtes vous-même directeur d'une salle à
oui,
Paris.
Oui, mais attention, ce n'est plus une salle porno. Et d'ailleurs, ça n'a jamais été une salle X, ça a été une salle soft. C'était du porno soft. Et après, la dame, cette dame qui m'a vendu la salle à Godard avant, parce que Godard était copropriétaire avec moi du cinéma.
Du Brady?
Oui, ça on le sait pas, mais...
Vous êtes toujours propriétaire donc du Brady?
Pardon?
Vous êtes toujours...
Oui, je suis toujours là, mais si vous voulez, en ce moment on est en train d'essayer, parce qu'on a besoin de trucs d'associations comme vous avez là, bon, enfin, je ne sais pas si cette association vous amène quelque chose, mais le mercredi on n'a rien, parce qu'on ferme le mercredi. Alors il faut qu'on trouve un ciné-club ou quelque chose qui nous le loue, parce qu'autrement on paye le loyer, tout ça, et le mercredi il n'y a personne. Donc le problème à Paris, c'est de trouver des gens qui veulent une association qui vous prend votre cinéma tous les mercredis, pour améliorer, si vous voulez, la semaine. Et on n'a pas ça. On ne sait pas qu'il n'y a plus de ciné-club, il n'y a plus d'association en fait. C'est dans le temps, les cinémas avaient tous un ciné-club. Il y avait le ciné-club. Chaque cinéma, le mardi par exemple, qui ne jouait pas. Parce que dans le temps, les cinémas ne jouaient pas le mardi, parce que ce n'était pas un bon jour. Le mardi, Truffaut et moi, on allait dans des cinémas où il y avait le directeur qui avait organisé, si vous voulez, une séance avec des prix, on donnait des photos, enfin, c'était cinéphilique. Mais aujourd'hui, ça n'existe plus, sauf dans certaines villes. C'est-à-dire le ciné-club du mardi. Moi, le seul ciné-club qui fonctionne en France, c'est le ciné-club de Saintes. Alors, on est allé à Saintes, tu te rappelles ? Il y avait 400 personnes. Mais alors, 400 personnes qui étaient des gens du ciné-club. Pas des gens qu'on attendait comme ça, comme on attend. Attendez Anne, on attend. Non, c'est pas les gens qu'on attend et qui ne viennent pas. Ce sont des gens qui sont dans un ciné-club, ils payent une cotisation et ils payent 5 euros. Et ils viennent. Et c'est la seule ville, au moins, où on est arrivé un soir. On s'est dit, il n'y a personne là, parce qu'on va foutre là-dedans. On s'est dit, c'est un ciné-club, on va avoir 40 personnes. Il y avait 400 personnes. J'ai vendu 52 livres, parce que j'avais amené des livres. Parce que j'ai toujours dans mon coffre des livres, pas cette fois-ci, mais j'ai des livres. Et que sur mes deux livres que j'ai publiés. Alors je les amène toujours en voiture avec moi, en me disant, mais peut-être que si la soirée est brillante, je vais vendre mes livres. Ma femme les vend. Mais là, j'en ai vendu 52 sur 400 personnes. Ça a été formidable, ce ciné-club de Saintes. Je m'en rappelle, et c'est un ensemble de la France, mais c'est un des rares où il y avait autant de monde. À Cannes, il y a le studio 13, ça marche pas mal non plus. On avait du monde aussi, là. Mais enfin, à Brive, il n'y avait personne. À Brive, zéro, il y avait 30 personnes.
Donc pour préciser nos audinotes, ce qu'est le Brady, parce que tout le monde ne l'a pas forcément fréquenté, c'est la dernière salle qui reste actuellement sur le boulevard de Strasbourg.
Non, on est
à
deux.
Paris.
C'est-à-dire, si vous voulez, le boulevard de Strasbourg, la France, depuis Paris, depuis les Enfants du Paradis, avait un boulevard qui était le boulevard du spectacle. Ça partait de la République et ça arrivait à l'Opéra. Et même, ça allait au-delà, ça allait même à la Madeleine. C'est-à-dire, de la Madeleine jusqu'à la République, il y avait 50 cinémas. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 10. C'est-à-dire, 40 cinémas ont disparu. Pourquoi ? Parce qu'on en a fait des magasins, on en a fait des magasins de fripes, on en a fait des Fnac, des machins, et des restaurants. Bistro romain, machin. Alors, ce grand boulevard était donc allé de la République à la Madeleine et était sillonné par... Il y avait 40 salles, maintenant il y en a 10. Et en croisement direct, en perpendiculaire, il y avait du Châtelet à la gare de l'Est. Le grand boulevard, c'était le boulevard Sébastopol et le boulevard de Strasbourg. Et ça traversait donc, ça coupait ce grand boulevard du spectacle. Depuis le Châtelet, il n'y a plus rien. Vous partez du Châtelet, vous arrivez à Strasbourg-Saint-Denis, il n'y a plus un cinéma, mais plus un, alors qu'il y en avait 10. Plus de cinéma entre le Châtelet et Strasbourg. À Strasbourg commence la partie des théâtres. C'est un endroit où il y a les bronzés, enfin le Splendid, tout ça. Et sur de Strasbourg-Saint-Denis jusqu'à la gare de l'Est, il n'y a que mon cinéma et un autre cinéma qui s'appelle maintenant l'Archipel. Et c'est les deux seuls cinémas sur le 10e arrondissement. Vous vous rendez compte ? Le 10e arrondissement, il y a deux cinémas. Et c'est un des quartiers les plus populaires de Paris, c'est-à-dire là où il y avait les Enfants du Paradis et tout ça. Bon, donc un quartier. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est que moi, j'ai un cinéma qui, lui, a un loyer tout petit et qui peut travailler avec deux salles. Et mon confrère, qui est en dessous, il a deux salles aussi, mais il a un loyer trois fois supérieur. Et alors, il est obligé d'organiser des séances de jazz. Donc, il a mis un piano dans une des deux salles et il fait que de la musique. Seulement, il y a des Indiens qui arrivent et ils lancent du riz dans sa salle parce qu'ils ont la tradition, c'est de lancer du riz. Ils arrivent avec des sacs de riz. Et quand ils sont bien contents qu'ils ont écouté de la musique, ils balancent des sacs de riz. Alors, il a un travail de nettoyage après qui est pas mal. Et il y a les Turcs. Alors oui, les Turcs, il a les Turcs, et c'est là où j'ai cherché sa plus grande ressource, c'est
oui,
les Turcs.
Parce que je suis allé chercher le distributeur de films d'un film.
Turc. Allez, mais il a fait 4000 entrées dans la semaine.
Et je cherche donc sur le net, et le seul cinéma qui...
Ben oui, mais il n'y a que ça. Et alors moi, il m'a piqué les Turcs.
C'était l'archipel, donc j'avais appelé pour connaître le distributeur.
Mais attendez, parce que les Turcs, quand ils ont un film, ils sont fous, ils viennent à 4000 dans la semaine. 4000. Alors que normalement, nous faisons 1000 places par semaine, maximum. Là, quand il y a le Turc, ou les Kurdes, ou les machins, ou les Sri Lankais, alors là, moi je suis dans l'Indien. Alors l'Indien,
oui, effectivement, alors, vous avez une programmation constante de facilement 4 films indiens, Devdas, la famille indienne.
Il n'y a que ça, attendez-vous bien, c'est pas les Indiens qui viennent. Parce que le plus fort... C'est qu'on pourrait croire qu'on est dans un quartier Sri Lankais, indien, etc., et que ce sont des Indiens. C'est des Blancs qui viennent. Il n'y a pas d'Indiens du tout. Même pas. C'est comme les Noirs. Quand on présente un film noir, il y a avec des Noirs, eh ben, il y a personne. Shaft, tout ça, il n'y a personne. Il n'y a pas de Noirs. C'est ça qui est curieux dans mon cinéma. C'est que on est dans un quartier cosmopolite avec des Turcs, des Kurdes, des Sri Lankais, des Arabes, des Noirs. Il n'y en a pas un qui vient chez nous. C'est tous des gens qui ne sont pas de ce pays-là. Alors on passe des films israéliens, iraniens, coréens. Moi je passe Grabuge dedans. Mais Grabuge.
J'ai vu qu'il était à la semaine pour voir.
Mais tous les jours il y est parce qu'il est à la 10e semaine. Et on fait 12 personnes par séance, sauf quand je viens le présenter, demain soir je le présente, il y a 50 personnes, mais si je viens pas, il n'y a pas 50 personnes, et même quelquefois quand je viens, il n'y a pas 50 personnes, tous les samedis je le présente, quand je suis à Paris, alors donc c'est pas mal, mais je veux dire, le Brady, si on n'avait pas les subventions, il serait fermé depuis longtemps.
Ben justement, c'était fin 2002, il me semble, vous aviez lancé un appel à la radio. Vous disiez que le Brady était vraiment sur le point de fermer ses portes et d'être racheté. Vous avez réussi
à... Oui, parce qu'on est obligé, si vous voulez, en province, moi je connais un salle d'arrêt d'essai, où il y a le père, la grand-mère, le grand-père, qui font la caisse et tout ça. Alors, ils sont en famille, donc ils n'ont pas de salaire, etc. Mais nous, on paye nos gens. Alors, on est obligé de fermer le mercredi, c'est pour ça qu'il est libre, parce qu'on a 35 heures par projectionniste, donc on n'a que deux projets, on ne peut pas en prendre un troisième pour un tournant le mercredi, parce qu'on a des séances enfantines et des trucs comme ça. Donc on fait plus de 35 heures, on fait plus de 35 heures par projectionniste, c'est-à-dire on fait 60 heures, 10 heures par jour pendant 6 jours, et les 10 heures supplémentaires, c'est les matinées avec les enfants, donc on ne peut pas en plus... faire le mercredi parce qu'à ce moment-là on a encore 10 heures de plus, donc il faut prendre un troisième projectionniste, donc on travaille comme ça, mais on aurait besoin de quelque chose le mercredi, un ciné-club, un cours d'art dramatique, quelque chose, on ne trouve pas. Malheureusement, on a mis des annonces sur Internet, zéro. C'est pour ça que je vous demandais l'impact d'Internet, parce que en fait pour nous ça n'a pas d'impact pour le moment. On n'a pas de réponse. On ne nous dit pas, tiens, oui, on va faire ça. Parce que ce genre d'association, bon là, on se réunit pour Queneau, mais il y a des gens qui se réunissent pour je ne sais pas quoi, pour les chasseurs alpins de l'association de je ne sais quoi, et ils ont besoin de salles. Et nous, c'est pas très cher, notre salle. Par conséquent, on n'arrive pas à trouver, alors c'est con. Alors, on n'a pas fermé, voilà.
Non, ce qui est une très très bonne chose, étant donné l'éclectisme de la programmation.
On a 11 films par semaine, dont le mien. Et le mien ne passe qu'à une séance par jour, maintenant.
Et combien de salles, Aubry ?
Deux salles.
Sinon, hormis le cinéma, j'avais envie de vous parler de télévision parce que j'ai lu que vous aviez réalisé ou supervisé une série qui s'appelle Mystère Moki et qui n'a
oui,
jamais connu
justement,
de diffusion.
Ils vont paraître, voilà. Alors ça, c'est une histoire assez extraordinaire. Je connaissais, j'étais allé faire le bouquin de Hitchcock avec Truffaut parce que Truffaut parlait pas l'anglais. Donc j'avais assisté au premier entretien entre Hitchcock et Truffaut. Et j'ai rencontré la fille de Truffaut, qui est une grosse dame, si grosse que son père, elle s'appelle Pamela. Et quand son père est mort, elle s'est retrouvée avec 250 scénarios que devait tourner Hitchcock présente.
Vous connaissez Pamela ?
Et alors, si vous voulez, elle est venue à Paris, je l'ai rencontrée. Et alors, c'était en 1992. Et alors, à ce moment-là, elle me dit... Tu devrais faire, moi je ne veux pas faire de télé, je ne comprends pas pourquoi ton père a fait de la télé, etc. Parce que moi je suis contre la télé en elle-même. Quoi. Mais comme il s'agissait de sujets policiers, donc qui n'étaient pas censurables, parce que ce que je n'aime pas de la télé, c'est qu'ils censurent les sujets. Donc on ne peut pas faire des scénarios pour la télévision, parce qu'il y a un comité de lecture, et dès qu'il y a un arabe ou quelque chose qui fait, ils coupent tout, eux. Alors s'ils coupent les couilles de tous les scénarios, c'est terrible. Hein, si vous travaillez pour la télé, c'est pas possible pour un type comme moi. Alors là, c'était une série, elle me dit, reprends les films de mon père, il a acheté des scénarios... Et le principe d'Hitchcock présente, c'était une vedette dans un truc de 26 minutes, une histoire, avec une chute mystérieuse, enfin un truc bizarre. Alors, elle me dit, je t'en vends, elle me dit, tiens, je te donne les droits de 50 nouvelles que mon père n'a pas tournées. Alors, je trouve une société qui était une grosse société, c'est la GMF, c'est une société d'assurance, qui voulaient faire de la télévision. Alors je leur dis, bon, on va faire 52, et moi je vous amène 52 vedettes. C'est-à-dire, chaque film aura une vedette. Donc on signe un contrat, et puis on commence. Alors je commence avec Jean Poiré, dans le rôle principal, après j'ai Jacqueline Maillan dans un autre truc, après j'ai eu Daniel Prévost dans un troisième, et Michel Serrault dans un quatrième. Et j'avais Catherine Deneuve, Philippe Noiret, Roberto Benigni, enfin j'en avais plein qui suivaient. Le type qui gérait ça a foutu le cœur avec le pognon et la série s'est arrêtée. Je ne sais pas ce qu'il a fait ce type. Bon, il est parti, il n'y a plus d'argent. Le truc a été arrêté. Et aujourd'hui, on sort en DVD chez Pathé les trois films qu'on a fait parce que le quatrième est inachevé. On ne peut pas le sortir. Celui de Serrault n'est pas fini.
Donc, elle
a mais il a vieilli, il a un peu son nez, son nez. Alors au lieu de s'appeler Alfred Hitchcock présente, c'était Mystère Moki présente, et c'est Mystère avec un Y. Mystère au lieu de M-I-S-T-E-R, c'était Mystère comme un mystère. Moki, mon nom, présent. Et à ce moment-là, moi j'apparaissais au fond d'une ruelle, habillé en noir. Alors c'était la même ruelle, c'était le gimmick, et il y avait un archer masqué qui me tirait une flèche dans le cœur, et je m'abattais, ça avait commencé comme ça. Et puis alors tous les films commençaient comme ça. Et il y en a trois, et ça va être mis dans un seul DVD, puisqu'il y en a trois, 26 minutes, ça va faire une heure et demie à peu près, et ça sort en mars.
Et en ce qui concerne les contraintes budgétaires, parce que vous êtes habitué à tourner avec des budgets assez minimes, est-ce que dans le cadre donc de cette série de films,
c'était
plus confortable par rapport...
Il y avait de l'argent, c'était un bon budget de télé, c'était pas un petit budget, c'était un budget normal de télé, parce qu'ils avaient de l'argent à la GMF, c'était pas des mendiants. Mais si vous voulez, le problème des budgets, c'est un faux problème parce que, en fait, tous les budgets sont petits. Si on prend le budget d'un film normal, hein, je dis bien normal, par exemple, le film de mon camarade Bertrand Blier, bon, combien tu m'aimes ? Bon, le film a coûté 70 millions d'euros, 7 millions d'euros. 7 millions. Oui, enfin un truc, moi je ne sais pas, 7 millions d'euros, 700 millions. 7 milliards anciens, très anciens. 7 milliards. Bon, mais vous enlevez Bellucci 1 milliard et demi, vous enlevez Depardieu, vous enlevez Blier, il vous reste quoi? Il vous reste à peine 3 milliards.
Bah, c'est le drame des grosses productions américaines.
C'est pour ça qu'un film, finalement, n'est pas cher. Un film en lui-même, il n'est pas cher. Quand vous pensez que ces gens, ces jeunes réalisateurs qui ont fait ce film fantastique et qui se passait dans une maison hantée, la Switch, je ne sais plus comment ça s'appelait.
Le projet Blair Witch. Hein.
Ouais. Oui, si. Vous savez que ça a coûté des clopinettes. Ils ont vendu ça 100 millions de dollars. Mm. Ça leur a coûté pas des millions de dollars.
Excellente opération. Effectivement. Sinon, vous parliez de les censures auxquelles...
Hein? Et alors donc, mon cher camarade, mais non, c'est pour ça que moi je dis aux jeunes qui viennent me voir, je dis, écoutez, j'ai bouffé l'autre soir avec Rodriguez à Cannes, pour Sin City, j'étais avec lui à Cannes. Bon, je l'aime bien Rodriguez, il me fait rigoler. Et alors, avec son ranch, c'est un type formidable. Hein. Il a fait un film pour 67 000 dollars.
C'est El Mariachi.
Donc aujourd'hui, si vous voulez, à la limite, on pourrait faire un film gratuitement. Un type très intelligent, un Einstein, pourrait faire un film avec pas un radis, pas un rond, pas un cloche, rien. Et c'est facile. Le jour où j'aurai fait un film pour rien, je m'arrêterai. Parce que je suis déjà pas très loin de rien, puisque je tourne pour 300 000 euros, 400 000 euros. Le film Grabuge a coûté 470 000 euros. Il y a Cerro, il y a Berlin, il y a tout à l'heure. Il y a plein de gens. Alors il faut les payer, bon. Mais 470 000.
Ce qui pour vous est le budget moyen de vos derniers films ou se situe.
Non, mais attention, dans les 470 000 euros, il n'y a pas Cerro. Il n'y a pas les salaires, il n'y a pas mon salaire, rien. Si on y ajoute tout ça, évidemment, ça fait plus. Mais on parle de cinéma au point de vue risque. Risquer son salaire, c'est pas terrible. C'est pas mortel.
Je me suis permis de...
Merci. C'est pas mortel. Vous n'êtes pas payé, bon, tant pis. Mais ce qu'il ne faut pas, c'est faire perdre de l'argent à quelqu'un. Merci. On ne peut pas faire perdre de l'argent à quelqu'un, parce qu'à ce moment-là, cette personne vous en veut, et puis voilà, et après, vous ne travaillez plus. Donc le secret, c'est finalement de ne pas faire perdre d'argent. Tant que vous ne faites pas perdre d'argent, bah, personne ne vous en veut. C'est pour ça que j'ai fait 50 films, d'ailleurs, parce que je n'ai jamais fait perdre d'argent. Mais celui qui fait perdre de l'argent, comme Blier, là, qui va en perdre avec combien tu m'aimes, alors là, il en a pour 3 ans à se remettre.
C'est la mise en quarantaine.
Pendant 3 ans, il aura du mal à travailler. Et quand on parle des autres, Crasby qui vient de se péter avec La vie est à nous, il en a pour 2 ans aussi, parce qu'à part Taxi, lui, il est en rade. Alors, tous ces gens-là restent en rideau, quoi, alors que moi, je travaille. Mais ils n'ont pas l'humilité, si vous voulez, de travailler pour rien. Ils ont... Maintenant, je prends des assistants. Un jour, je me suis rendu compte, j'ai eu comme assistant Ettore Scola, Marco Bellocchio, Francis Giraud, Jacques Ruffio. J'ai eu que des assistants célèbres, qui sont devenus célèbres, et quelquefois qui sont devenus, j'allais pas dire plus célèbres que moi, mais qui ont eu des budgets. Mon assistant Francis Giraud, que j'ai lancé en 62, à peu près à la période, il était sur un couple d'ailleurs. Vous voyez, alors. Eh bien, il a fait des films, La Banquière, tout ça, beaucoup plus cher que moi, beaucoup plus cher. Il a fait des trucs avec Romy Schneider. Donc moi, j'ai révélé des jeunes réalisateurs. Et Ettore Scola n'était pas jeune, parce qu'il a mon âge. Mais enfin, il est venu à Paris, c'était la mode. Les Italiens venaient faire des stages dans des films français. Antonioni a fait des stages dans Les Visiteurs du Soir. Scola a fait un stage chez moi. Bellocchio a fait un stage chez moi. Et c'était pour voir comment ça se passait, quoi. C'était pas vraiment... Ils servaient, ils n'allaient pas chercher des sandwichs, ils servaient un peu, ils portaient quelques projecteurs, enfin, ils faisaient des trucs, mais c'était pas des grouillous, quand même. Et Francis s'est révélé immédiatement un type génial, Francis Giraud. C'était... Et puis Radou, là, je connais son prénom, là, celui qui a fait Train de Vie et tout ça, c'était mon assistant aussi. J'en ai sorti pas mal d'assistants. Mais aujourd'hui, moi, dès que je vois un type intelligent, c'est fini, parce qu'avant, il y avait des assistants de carrière. Et le type qui avait fait les Clouseau, qui avait fait les Autant Lara, qui avait fait les grands films, etc. Et alors, on l'a engagé comme une espèce de pilier de production, et il faisait tout. Et même quand vous n'étiez pas sur le plateau, le metteur en scène, c'était tout réglé. C'est-à-dire, vous avez dit au figurant, là, alors le metteur en scène arrivait, il disait moteur, mais tout était réglé. Le figurant numéro 1 est parté là-bas, là, c'était tout réglé. Alors maintenant, ces assistants ont disparu. Il n'y en a plus des types comme ça. Alors, quitte à prendre un jeune qui lui donnait 8000 francs par semaine, parce que c'est le prix d'un assistant, 8000 balles pour rien foutre, rien vous apporter, autant prendre un type payé par une école qui n'est pas con, qui va faire la même chose pour 1000 balles par semaine. Non, je veux dire, il va faire pareil, et puis en plus, ça va l'aider. Parce qu'il va, on va former quelqu'un qui,
une expérience,
tout de suite après, 2-3 films, qu'il aura fait avec moi, il vaudra 7000 ou 8000. Mais c'est pas moi qui l'aurais payé 8000, vous comprenez ça. Et le gars, il va servir. Et c'est pareil pour l'électricien, parce que l'électricien, c'est un métier qui est très cher. L'électricien. Et aujourd'hui, vous prenez un jeune sorti d'une école d'électricité, vous en faites un électricien. Et vous allez le payer 5000 balles la semaine au lieu de 20000 balles la semaine. Donc, si vous continuez comme ça, vous finissez par avoir une équipe de 10 personnes qui ne vous coûte pas cher. Mais à qui vous apprenez quelque chose?
Complètement. Sachant aussi que le fait de travailler avec des budgets réduits vous interdit pour l'instant de réaliser certains de vos projets. Je crois qu'il y en a un qui s'appelle Fleur de Rubis, dont vous avez beaucoup parlé, que vous envisagiez comme quelque chose.
Il est en cours, celui-là, à cause de Jean Reynaud qui a accepté de le faire. Donc, Jean. Bah, probablement.
Est-ce que vous pouvez rappeler, nous audinos, ce qu'est Fleur de Rubis, pour ceux qui n'en auraient pas entendu
Fleur
parler?
Fleur de Rubis, si vous voulez, c'est une fresque. Moi, j'étais très jeune pendant l'occupation. Moi, je suis né en 33, donc j'avais 9 ans en 42. Donc, vous voyez, j'avais 12 ans en 44, en 45 même. Et j'ai vivé à Pigalle, j'étais macro à Pigalle, moi, à 12 ans, à 13 ans, parce que j'avais un faux âge, enfin, c'est très compliqué. J'avais été vieilli, donc j'avais apparemment 17 ans, en réalité j'en avais 13, et j'étais macro sur la place Pigalle. Et donc j'ai connu la place Pigalle au moment où les Américains sont arrivés. Et alors, on avait caché les biens juifs, les collaborateurs dans les catacombes de Paris, tout ça, et ça m'a inspiré, j'ai connu des putes et tout ça, et ça m'a inspiré, si vous voulez, une fresque sur la période 45, et surtout sur la disparition des bordels, c'est-à-dire en fait, Marthe Richard est arrivée, elle a décidé de supprimer les bordels. Elle y est arrivée et on n'a jamais fait vraiment un film là-dessus. On a fait un film sur Marthe Richard, espionne française, etc. C'était Edwige Feuillère qui jouait ça et Stroheim qui faisait son amant. Voilà, vous le connaissez, vous avez des lettres. Alors donc, c'est un film de Raymond Bernard qui était pas mal. Il y avait Stroheim qui se faisait baiser la gueule par Edwige Feuillère, une espèce de Matahari, parce que finalement Marthe Richard a été comparée à Matahari, sauf qu'elle n'a pas été fusillée. Donc à la fin de la guerre, elle était une grande espionne. Bon, elle a été reconnue, une médaillée, et comme c'était une ancienne pute elle-même, elle a voulu défendre les putes. Donc libérer la femme, c'était une des premières à vouloir libérer les femmes de l'esclavage des maisons, etc. Et elle a travaillé pour que les putes ne soient plus dans les bordels. Et alors elle est devenue la maîtresse du préfet Luizet, qui était un salopard, etc. Et grâce à ce préfet, elle a obtenu la fermeture des maisons en 46. Alors ma fresque, moi, comme j'ai vivé là-bas de 45 et 46, je me rappelle très bien tout ce qui se passait là-bas. Et j'ai tous les détails. En plus, j'ai un ami qui vivait aussi dans cette époque-là. Et on a réuni les documents. Plus le côté mystère de Paris, de Eugène Sue. Bon, alors avec les catacombes, 300 km de catacombes où les Allemands cachaient les trucs. Les gangs qu'il y avait à l'époque, la traite des Blanches. Et Marthe Richard, l'attentat de Marthe Richard, parce qu'ils ont voulu la flinguer dans Métro Pigalle, ils ont voulu la jeter sous le métro, elle s'est échappée, enfin elle a eu de la chance parce qu'elle a failli qu'elle y reste. Et la fermeture des bordels. Alors la fermeture des bordels, ça se termine le film par des étudiants qui prennent possession des chambres de bordels avec des glaces et tout ça, parce que les étudiants n'avaient pas de logement à ce moment-là, donc on les foutait dans les bordels qui avaient été fermés. Et tout ça fait que le sujet est quand même, est-ce qu'on a eu raison, enfin parce que chez moi il y a toujours un sujet, un fond, a-t-on eu raison de fermer les bordels? Point.
Mais je m'en fous, il traîne avec qui?
Explication, oui ou non. Voilà. Et alors, à travers tout ça, mais ça coûte cher parce que la place Pigalle a changé de visage, elle n'est plus du tout pareille. On a foutu un métro, un truc, enfin c'est plus pareil quoi. Il faut reconstituer ça, et puis il faut des grands acteurs. Alors j'ai Sean Penn, enfin, j'ai plein de gens qui ont accepté, mais on n'a jamais réussi à monter.
Justement, à une époque, vous avanciez des noms, Adjani, Belmondo.
Mais Adjani, maintenant, Adjani, elle devait faire la jeune fille. C'est en fait autour de cette histoire, il y a une histoire d'amour entre un jeune homme qui est une pute, enfin, un mac, et une fille pure qui habite là-bas, une vierge. Alors à l'époque, Adjani devait faire la vierge. Maintenant, elle va faire une, si elle joue dans le film, parce que c'est pas sûr du tout. Elle ferait au contraire une lesbienne, la directrice de Moon, qui est un cabaret de lesbiennes, etc., avec un monocle. C'est ce que devait faire Deneuve à l'époque. Maintenant, Deneuve est trop vieille pour faire ça. Donc, ce sera peut-être Adjani. Mais en fait, c'est, à mon avis, c'est un film qui ne se fera jamais, malgré le désir que j'ai de le faire. Mais c'est trop cher, c'est trop difficile. Il faudrait des jeunes producteurs qui bougent ça, mais c'est très dur, très très dur. Ça se fera peut-être, peut-être. Bon, on ne sait pas.
Et sinon, pour parler d'un autre de vos projets...
Carrossier de la mort.
Non, un peu plus récent, peut-être même l'avez-vous tourné, je ne sais pas, c'est Les Ballets Écarlates.
Ah ben, c'est ma femme qui est la vedette, mais on le tourne. Alors là, c'est encore un autre truc, c'est un film sur la pédophilie. Et c'est un film que je viens de finir, il est fini d'ailleurs, il va sortir. Et j'ai tourné le bénévole,
en fait.
J'ai Touriste, alors, j'ai Touriste au Yes, qui est un film sur le tourisme, qui est un film muet. J'ai Les Ballets Écarlates dont ma femme et moi-même sommes les vedettes. Et puis, il y a Le Bénévole, dernier film avec Bruno Solo, Le Bolloc, Dreyfus, Farsi et Serrault. Alors celui-là, il est fini aussi. Et là, on commence le nouveau le deal là, qui commence fin janvier. Non, on a des films. Pour avoir des films, on a des films. Mais le problème...
Oui,
c'est la sortie des films. Mais la sortie des films.
Je...
Mais non, mais j'en ai 4 de films.
Voilà,
j'en ai 5. Le problème des films, c'est pas le problème des films, c'est les problèmes des sorties. Parce que les gens, si vous voulez, aujourd'hui, on a un exemple avec le film Palais Royal. Démarrage foudroyant, la première semaine. Deuxième semaine, moins 68%. Troisième semaine, moins 84%. J'étais l'autre jour dans une petite ville pour présenter mon film, on était à Tonnerre, je crois, je ne sais plus quoi. Il y avait 4 personnes pour le Palais Royal, en deuxième semaine. 4 personnes. Alors, si vous voulez, on gonfle, c'est comme la grenouille qui veut devenir aussi grosse que le bœuf de La Fontaine. On gonfle un film en mettant de l'affiche partout. Partout et après au bout d'une semaine il y en a un autre qui fait la même chose, celui qui sort une semaine après il fait pareil et tue le premier.
Bah, c'était le cas là où ils ont sorti tout calme.
Joyeux Noël
un mois et demi là ils ont eu...
Oui, mais Joyeux Noël il a complètement coulé alors que c'était
un film de Cannes qui sollicitait le même public et en fait il y en a pour lesquels ça a été une...
Moi j'ai vu le film de Krasnick avant-hier soir. J'ai vu le film de Krasnick, La vie est à nous. 4 personnes dans la salle. Hallucinant.
Est-ce que vous faites des films recherche au Brady? Enfin, vous allez un peu auprès de nous.
On a que des films de recherche, à la limite, les films japonais et coréens, c'est des films de recherche.
Enfin, non, mais vraiment, pas la même chose. Je veux dire, du
non,
du
on
GNCR,
peut pas, parce que personne nous aide pour faire ça, on peut pas. On a voulu faire un festival de courts-métrages à un moment. Et puis ça n'a pas marché parce que ce connard de Douillet, le type qui s'occupe de ça, j'ai failli lui foutre mon poing dans la gueule. Je lui téléphone l'autre fois en lui disant, écoute, je veux bien faire un programme de courts-métrages pour aider des jeunes. Alors je propose ça. Je dis, voilà, je fais 6 courts-métrages d'un quart d'heure, enfin en moyenne, quoi. Ça va faire 1h30, ou même peut-être 8 pour 2 heures. Et toutes les 2 heures, je les repasse. C'est-à-dire, je fais comme si c'était un film. Je fais un permanent avec 5 séances, avec 6 ou 7 courts-métrages, selon la longueur des courts-métrages. Alors, j'ai dit, je donne la salle à des jeunes, je ne veux pas gagner de l'argent, mais payer le projectionniste. Parce que je ne veux pas payer quand même le projectionniste en plus. Et garder la monnaie. C'est-à-dire garder les recettes que vous ferez. Si la grand-mère du premier court-métragiste vient, c'est qu'il garde le fric. Mais moi, payez-moi tant de l'heure du projectionniste. C'est tout ce que je vous demande. Et un peu d'électricité. Enfin, ça faisait 100 euros par jour. Un truc comme ça, c'était pas très cher. Eh bien, mon vieux, le douillet, le gars qui dirige les courts-métrages, il m'a jamais répondu. Et comme court-métrage, j'avais mis une annonce, je ne sais plus où, je ne sais pas si c'est sur Internet, j'ai reçu un court-métrage. Alors j'ai téléphoné à ce connard qui organise le Clermont-Ferrand, je lui dis, il voulait que je sois président, il dit, écoute, je ne serai jamais président de ton truc parce que ça ne peut pas fonctionner. Alors, les types disent qu'ils ne peuvent pas passer de court-métrage, je leur propose ma salle, et je leur demande 100 euros. Alors ils étaient 8, hein, parce qu'il y a 8 courts-métrages en gros. Alors, 100 euros divisé par 8, c'est le prix de
Kira.
Bon, alors, le type, s'il n'est pas foutu de me payer 2 Kira pour passer son court-métrage, il y a de quoi se flinguer. C'est vrai.
Vous n'avez pas essayé par l'agence du court-métrage ou
mais c'est eux. Enfin, l'agence ou la maison du court-métrage, ils sont deux. Il y a deux sociétés. J'ai reçu aucun court-métrage. On avait dit, envoyez les courts-métrages, on va faire un programme. J'en ai reçu un.
Parce que
ces types-là, ils s'en foutent, vous comprenez, ils touchent des subventions, ils s'en branlent, mais complètement, ils s'en branlent de tout ça. Des courts-métrages, ils se les foutent quelque part, ils n'en ont rien à foutre, et alors tous ces types font des courts-métrages, et ça reste comme ça. En plus, faire des courts-métrages ne signifie pas pouvoir faire des longs-métrages, parce que c'est pas la même. Faire un court-métrage de 15 minutes, avec un début, un milieu, une fin, en 15 minutes, c'est beaucoup plus facile que de faire un film d'une heure trente, avait amené un scénario sur 1h30 sans faiblir, c'est autre chose que de faire un court-métrage. C'est pas la même profession à la limite, c'est pas la même chose. C'est comme le clip, il y a déjà une différence entre le clip et le court-métrage. Le clip c'est 1 minute, le court-métrage c'est 15 minutes ou 10 minutes.
Alors parlant de clip, si je ne me trompe, vous en avez réalisé un pour Dick Rivers également.
Dick Rivers, Goldman, Gérard Blanchard, Alain Souchon, j'en ai fait, mais il y en a que je ne signe pas. J'ai fait 67 courts-métrages ou publicitaires, enfin clips, mais on ne les signe pas, c'est ça qui est étonnant. Moi j'ai fait du yaourt, personne ne sait que c'est moi qui les ai fait, parce que le principe, on ne sait pas pourquoi ils nous engagent, parce qu'ils ne nous demandent pas de signer. Tout le monde sait que Besson ou que Gainsbourg a fait des courts-métrages, parce qu'il y a eu une publicité faite au moment où ils ont fait le court-métrage. Autrement, on ne signe pas. Alors, notre rôle, le client choisit le modèle. Donc, nous, on n'intervient pas. On dit, alors, ils choisissent une fille pour faire la lessive ou pour faire je ne sais pas quoi. Donc, nous, on ne choisit pas la fille. Tout ce qu'on peut faire, c'est sur des photos conseiller, dire, bon, plus. Ce panel de filles, il y a 10 filles, ben choisissez. Voilà le travail. Après, le film se fait. Quelquefois, il n'y a qu'un plan. Donc, il n'y a pas de montage. Alors, pas de monteur, il n'y a pas de montage. Et puis, le tournage, bon, ben, on est là, et il y a le client. Alors, si on dit à la fille ou au gars de faire ça, il dit, ah ben non, pas comme ça, parce que les gens vont croire que si c'est un savon, par exemple, il faut le tenir d'une certaine manière. Bon, alors, finalement, on ne fait rien du tout.
Donc,
et on touche 15 briques.
Donc sur
enfin, 150 000 balles anciens. Enfin, anciens.
Donc sur ce.
Alors, on se demande pourquoi on est là. Mais c'est et tous, que ce soit Miller ou moi ou Pascal Thomas, on fait ça et puis on ne fait rien finalement.
Donc sur ce type de réalisation, y compris le clip qu'on pourrait croire un peu moins corseté que la publicité télé, vous êtes simplement exécutant.
Non, sur le clip, c'est une chanson. Alors là, on a quand même, disons, on a plus de liberté, parce que dans le sketch de Goldman, bah, non, parce que chez Goldman, ce qui s'est passé, c'est que c'était la mode à l'époque aux États-Unis de dire du mal de son produit. C'est-à-dire, par exemple, de dire le beurre, c'est dégueulasse, ne le prenez pas. Donc, pour le faire vendre, c'est-à-dire de faire le contraire de ce que font les autres. Ah, surtout, prenez pas mon beurre, il est dégueulasse, il est taché, etc. pour que les gens achètent le beurre. Ça a été toute une mode aux États-Unis à la pub. Et ça a été lancé par Woody Allen, mais aussi par d'autres, par Lester, etc.
Il y a le concepteur de l'affiche du film de Laurent Baffy, Les Clés de bagnole, qui s'y est risqué.
Ça n'a pas marché.
Non,
ça,
pas
non,
franchement.
Non, c'est le produit. Les gens ont voulu, à un moment donné, ils avaient fait d'ailleurs un numéro spécial sur Culture Pub, sur ça, auquel j'avais participé, à cause de ce film de Goldman. Et alors, un jour, Goldman, il dit, moi, je ne suis pas très fan de Goldman, mais enfin, bon, parce que j'avais fait un autre combat, puis je connaissais quelqu'un, il me dit, on va faire ça, toi, tu es un peu bizarre, dit, on va faire ça. Alors, le clip, ça consistait à le voir dégueulasse dans un café, après coucher chez lui. Il avait de la morve au nez, enfin des trucs à se flinguer, et à la fin il chantait, il disait, je suis con comme un cigare, etc. Enfin, bon, mais c'était ça du clip. Alors quand son producteur, alors on l'a fait, mais quand le producteur est arrivé, il a vu ça, il l'a foutu au panier. Alors, vraiment, il a brûlé le truc. Moi j'ai touché 100 000 balles parce que j'ai pas tout touché parce que le clip est pas passé. Alors nous on a un tarif, si vous voulez, c'est à dire qu'on touche tant, et puis quand le truc est diffusé on a tant par diffusion. Enfin bon, comme le truc n'a jamais été diffusé, jamais été fini de payer quoi. Mais ça ne marche pas ça, parce que c'était trop dégueulasse, c'était devenu tellement dégueulasse que vraiment il faut une certaine noblesse pour faire ça, pour faire un truc, un humour en tout cas, c'est de l'humour noir.
Une autodérision.
Oui, un humour noir. Bon, enfin, tout ça, c'est passé, c'est oublié.
Est-ce que c'est un clip qu'on aura l'opportunité de voir dans les rééditions DVD, dans les bonus?
Ça n'existe plus, ça. C'est des trucs qui ont disparu de la circulation. Par contre, on peut montrer à Gérard Blanchard, Andy Kriver, je les ai, ceux-là, parce que ceux-là, ils ont été, disons, normaux. Ils sont pas normaux, mais ils sont quand même plus accessibles.
Alors parlons de Dick Rivers, il a joué dans un de vos films, la Candide
Madame Duff, avec ma femme et moi-même, oui. Mais c'est un film inconnu parce que, enfin, c'est encore, malheureusement, ma pauvre Pamela, je crois que m'a embarqué là-dedans. Parce qu'en fait, la Candide Madame Duff était le film que devait tourner Hitchcock avant sa mort. Parce que c'était un film qui lui rappelait Soupçon. Il avait acheté ça il y a très longtemps, à Candide Manin, une vieille dame, dans le genre d'Agatha Christie, mais qui était une femme qui se promenait avec des jarretières, une espèce d'Agatha Christie, disons, Marlène Dietrich. Elle avait écrit ça, elle s'appelait Thompson, Elisabeth, Tiroir, bon. Et elle était contemporaine d'Agatha Christie. Elle avait écrit ce truc qui s'appelait La Candide Madame Duff. Et du temps où Hitchcock était à Londres, comme il avait travaillé à Londres longtemps, il avait acheté ça. Et il n'a pas tourné. C'était un truc qui devait tourner juste avant sa mort. Alors après, quand sa fille est arrivée pour me proposer tous ces trucs de Hitchcock présente, elle m'a donné ce livre, La Candide Madame Duff. Et elle me dit, tu sais, papa, il voulait le faire, tu devrais le faire, c'est pas cher. Et l'idée était curieuse, c'était l'idée d'un type qui avait une femme parfaite. Elle était parfaite, sa femme. Alors il trouvait ça bizarre qu'elle soit parfaite. Et il essayait de comprendre pourquoi elle était parfaite, ça le faisait chier qu'elle soit parfaite.
Vous avez vu, ça doit être chiant avec elle.
Oui, mais elle était parfaite.
C'est horriblement
ennuyeux. C'est-à-dire que tout le début du film, elle est parfaite. Elle dit, alors, il se dit, c'est pas possible qu'elle soit parfaite. Alors, il la soupçonne de coucher avec le chauffeur, qui était Pierre Cosseau, l'amoureux de Sophie Marceau dans La Boum. Et alors, finalement, le mari, que je jouais moi, se demande s'il n'y a pas d'anguille sous roche. Elle ne peut pas être parfaite comme ça. Et alors, Dick Rivers joue le rôle d'un policier au moment où il y a un meurtre. Voilà, enfin voilà, alors c'est basé là-dessus. Mais ça ressemblait beaucoup à Soupçon. Et moi, je jouais le rôle de Cary Grant, en fait.
Est-ce qu'il y a un verre de lait?
Non, il n'y a pas de verre de lait. C'est-à-dire, je jouais le rôle de John Fontaine plutôt que de. Je jouais le rôle de la femme dans Soupçon.
Mais Dick Rivers, donc, dans La Candide Madame d'Oeuf, il y a Nino Ferrer dans L'Itan, Eddie Mitchell dans Amour l'arbitre, et j'ai lu, vous allez pouvoir me le confirmer, qu'il y aurait Plastic Bertrand dans Le Bénévole.
Il est dans Le Bénévole.
Vous êtes probablement le cinéaste français qui fait le plus tourner des chanteurs.
Il y a Aznavour aussi. J'ai fait trois films avec Aznavour. Non, même. Non, parce qu'en Amérique et en France, les chanteurs sont devenus des stars. Yves Montand, Robin, Jacques Dutronc. J'ai eu Jacques Dutronc aussi dans Y a-t-il un problème nasal. Donc je les ai tous su presque. Plus ceux qui veulent tourner avec moi, comme Lama, Serge Lama, des gens comme ça, Laurent Guéra.
Oh, les cellules là-dessus.
Ben non, mais ils sont tous en train de vouloir tourner avec moi. Je ne peux pas tourner avec tout le monde. Je ne peux pas tourner avec tout le monde, j'en ai rien. Et donc, finalement, ces chanteurs, ben, je les connais bien. Et je les aime bien, d'ailleurs. Je suis très copain avec Laurent Guérard, surtout, qui est un garçon que j'aime beaucoup. Voilà. Mais il ne peut pas tourner parce qu'il est toujours... il s'occupe, il n'est jamais libre, etc. Donc, je ne ferai jamais de film avec lui. Mais je ferai peut-être un film avec Jim Carrey, parce qu'il est venu un jour à Paris, et il a l'air intéressé par mon cinéma. Mais en fait, ça s'arrête là pour le moment.
Il est étonnant, ce comédien.
Moi, ouais, il est bizarre. Je l'ai vu. Il est pas du tout comme vous le voyez. C'est un intellectuel. Ce qu'on pourrait pas penser que c'est un intellectuel, mais c'en est un. C'est un monsieur, vous le voyez, on dirait un professeur presque.
Il faut parfois être très intelligent pour faire les pires crétineries. Hein,
comme... Oui, mais il a pas l'air. Enfin, moi, je l'ai vu. Quand je l'ai vu, j'ai dîné avec lui une fois. Je savais pas vraiment comment qu'il était. J'ai été surpris.
Et sinon, enfin, pour conclure, on a pas mal parlé donc de la collection de DVD qui est consacrée à votre œuvre. Alors, le but de la... Il y a 14 films qui sont...
21
maintenant.
Depuis hier, 21, plus les 3 qui sont pas sortis dans la collection. Parce que, si vous voulez, quand ma collection a commencé, il y en avait 3 qui étaient déjà sortis dans d'autres collections. Ce qui fait que, maintenant, elles vont arriver, on les a rachetées. Et elles viendront, pour qu'il y ait une véritable collection de toutes dans la même, on les mettra à la fin, c'est-à-dire dans les 48, 49, 50. Alors on a racheté Agent Trouble, on a racheté Saison du Plaisir, on a racheté Le Furet, qui ont été diffusés par Gaumont, qui les avait sortis avant que la collection existe. Donc on va les retrouver dans 2 ans, quand on aura fini la collection, on va les racheter, et puis on les a rachetés déjà d'ailleurs, et on va les remettre dans la collection au bout du compte, quoi. Et là, cette fois-ci, il y a Ville à vendre, Le Miraculé, La Machine à l'écoute que j'ai fait avec ma femme, L'Itan, 4, La Nuit à l'Assemblée Nationale, 5.
Et moi j'ai lu, c'est vraiment Jérôme Sédou qui vous a contacté.
Oui. Ben, et maintenant j'en suis à 24. Alors j'ai 21 chez Sédou. Il y en a 7 qui sortent au mois de mars, ça fera 28. Plus les 3 qui sont pas encore, qui sont dans le commerce mais qui sont pas chez Sédou, ça fait 31. Donc au mois de mars j'en aurai 31. Et puis au mois de septembre j'en aurai 38. Après 45 et enfin les derniers, puisque j'en fais 2 cette année.
Donc vous chez Pathé, Godard chez Gaumont.
Oui.
Et donc vous travaillez activement à cette collection, vous supervisez l'état des copies
Maintenant on a des copies parfaites. D'ailleurs on refait tout à zéro. C'est formidable ce qu'on a fait sur les DVD. Là ils sont brillants maintenant. On dirait qu'ils sont tout neufs, qu'ils viennent de sortir. Non, c'est très beau ça. C'est un travail, il y a de l'anti-scratch, il y a des réétalonnages, c'est formidable ce qu'ils font. Hein. C'est pour moi qui fais ça, mais je veux dire, c'est vraiment de grande qualité chez Pathé, hein. C'est pas n'importe quoi.
C'est pas coupé avec mon fils, hein. Je connais déjà mon cadeau de Noël.
Non, mais c'est-à-dire qu'on en a, et on commence, si vous voulez, une fois qu'on... C'est quand même assez extraordinaire de son vivant d'avoir 50 films, je suis pas encore mort, mais je veux dire d'avoir... En 2007, j'aurais mis 50 films en DVD. Et la collection, elle vaut 1 million. C'est-à-dire, le gars qui aura acheté toute ma collection, il aura dépensé 10 000 francs. Et parce que 50 titres à 20 euros...
Oui, je les ai vus, je ne trouvais pas cher du tout, d'ailleurs.
Non, mais 20 euros, 25
euros, c'est pour ça que je sais, 10 millions.
Un million, c'est-à-dire, ça représentera 1 million. Et pour moi, ça représentera beaucoup plus, c'est-à-dire, c'est la... les copies qui sont merveilleuses, c'est formidable pour moi. Et surtout que là, je fais le film de Bellucci au mois de juin. Donc il y aura le film de Bellucci, il y aura le film que je fais au mois de il y aura encore deux films, donc je serai à 52. Mais on tourne beaucoup, puis le Gore, ça fera 53. Donc on a beaucoup de projets. Mais on ne sortira malheureusement en cinéma que d'une manière, disons, je sortirai que dans des villes où je vais. Où il y a... Puis maintenant, on pense à un système de location. C'est un peu comme dans les tournées de théâtre. On en parle beaucoup. C'est-à-dire qu'en fait, pour qu'un type se déplace dans une ville, que ce soit moi ou un autre, il faut qu'on soit sûr que les gens vont venir. Supposé que je prenne le train, j'arrive ici et qu'il n'y a personne. C'est pas très agréable pour le directeur de salle et c'est pas très agréable pour moi. Alors le principe de la tournée, c'est-à-dire théâtrale, ils font comme ça, ou la tournée de chanteurs, ils louent la salle. Ils disent, monsieur X arrive aujourd'hui, est-ce que ça vous intéresse? Donc il y a des villes par exemple où on a fait ça, par exemple à Nîmes, ils ont loué à Nîmes et ils ont vendu des billets avant que j'arrive. C'est-à-dire que quand les gens venaient, ils avaient mis une grande affiche sur la caisse, Moki va venir le telle date. À ce moment-là, vous pouvez prendre vos places maintenant. Alors les gens prenaient des places, et quand il y en avait 150, le directeur me téléphonait, il me disait, venez, autrement, venez pas, parce que s'il y en avait 3 qui demandaient des places, je venais pas. Et ça, c'est pas mal, parce qu'en fait, quand on regarde à Lyon, par exemple, je suis allé à Lyon au CEP, j'ai fait 500 personnes, mais un de mes confrères a fait la semaine, il a fait 450 personnes en la semaine. Tandis que moi, à une soirée, j'ai fait 500 places. Et après, je m'en vais. Fous le camp. Et j'ai pas besoin de rester une semaine pour qu'il y ait 3 pelés entendus.
Ce qui peut être une bonne solution alternative, effectivement, ah oui, à la saturation des sorties hebdomadaires.
Supposé que je fasse... Hein. Non, je peux pas faire 200 villes, parce qu'il faudrait que je sois dans une ville tous les soirs. Mais 200 villes à 500 places, ça fait 100 000 entrées. C'est ce que font les chanteurs, hein. Parce que en fait, on n'a jamais fait ça. On veut traîner.
Certains, bien je pense,
on fait traîner les films. Vous savez bien parce que vous occupez. Moi, je le sais parce que j'ai une salle. Vous avez des salles où vous avez 15 personnes par séance, même pas. Alors, traîner un film, le projeter, que ça coûte de l'électricité, que ça use de la copie pour.
Personne ne le voit.
Il vaut mieux faire une soirée ou deux, éventuellement. Il y a Moki, il arrive, alors il y a une matinée, une soirée, même 5 séances, si vous voulez, la même journée. Et puis après, c'est fini. Les gens qui ont voulu voir, ils ne pourront pas dire, ah ben j'ai pas pu venir à 20h, il y avait une séance à 14h. Et alors Moki est éclusé en une journée. Il se fait 500-600 places, et il s'en va. Et donc, sa copie. Et c'est ça l'idée, parce que traîner un film, moi je vois des copains, ils ont des films, ils foutent rien, mais rien du tout. Ils ont 10 personnes par jour. Alors, 10 personnes par jour pendant 7 jours, c'est 70 personnes. Si j'en ai 70 d'un seul coup...
Oh, mais il faudrait que tout le monde ait la même philosophie que vous.
Ah non, mais...
Accepter de se déplacer...
Mais attendez. Je suis un forain, moi. Je suis gitan d'origine. Si vous voulez, je suis forain. Moi, si j'avais une caravane, je me mettrais dans une caravane.
Le cinéma est d'origine foraine.
Oui. Moi, si j'avais une caravane avec ma femme, on aurait une caravane avec un cheval. Aujourd'hui, on peut faire un cheval. Mais une caravane avec une roulotte, et puis on a les bobines dedans, on fait une ville par jour. Mais il faudrait que ce soit organisé, si vous voulez. Et alors, à ce moment-là, je fais des télés avant, comme les chanteurs. Et je peux avoir des télés quand je veux. Je vais chez Drucker, je dis, je passe à Pouilly-les-Oies le 12, puis à le 13. Et non, mais c'est ça l'organisation. Oui, parce que pourquoi je ne serais pas un chanteur, moi? C'est comme un chanteur, je suis un artiste. Je viens parler à des vieux, des jeunes. Je vais au lycée le matin. C'est-à-dire, je fais des blots. Le lycée le matin, le scolaire le matin. Des vieux à 3 heures.
On organise ça l'année prochaine, si puis, vous voulez. Et puis, deux soirées. Vous prends mot.
Ah bah oui, c'est le seul temps donc.
Une à 17h pour les... Une séance à 19h pour les
je
vieux.
Je vous prends au mot.
Et une autre à 21h. Et puis
ça, là, quand je vois le travail qu'il y a...
Je m'en vais avec 5000 balles, et puis je m'en vais, et puis c'est tout. Et puis le fonds de soutien, etc. Donc, si vous voulez... Non, mais je ne comprends pas pourquoi... Parce que les films d'auteur, ça devrait être traité comme ça.
Parce que tenir un film d'auteur pendant une semaine, il faut être cinglé. Qui c'est qui va aller voir, je ne sais pas quel truc tordu, même si c'est dans le bon sens. Si
les auteurs ne peuvent pas se déplacer, vous parliez justement d'Elephant.
Non mais Elephant, ouais, Elephant, c'est un
on
film,
obligé de bon, le tenir
c'est un film américain.
L'auteur quand même.
Ceci dit, je suis désolé de vous interrompre parce qu'on parlait d'être en ligne, mais le mini-disque va toucher à sa fin, donc on va devoir arrêter l'entretien. En tous les cas, on vous remercie. Et puis j'ai très hâte de voir votre film au gore.
Eh ben voilà. On va voir le film au gore. Non mais c'est rien, un film ce n'est rien. C'est le problème du film, c'est d'avoir son exploitation. Parce que le film lui-même, c'est un jeu d'enfant de tourner un film, pour un homme qui a quand même de l'expérience. Mais c'est après, si vous voulez, c'est mal géré. C'est regarder, par exemple, au Havre, je suis sorti. Alors, je ne sais pas combien il y aura de personnes dans votre salle pour Grabuge, mais je suis sorti, j'ai rien foutu, j'ai sérieux, rien du tout. Pourquoi ? Parce que je ne suis pas venu, parce que personne ne savait ce que c'était, etc. Alors, je vous donne un exemple. À Lille, j'ai fait 34 personnes en une semaine. Je suis allé l'autre jour à Lille, 34 personnes en une semaine, une personne par séance. Je suis allé l'autre jour à Roubaix, c'est pas très loin, j'ai fait 270 personnes en une soirée. Oui. Alors expliquez, pourquoi en une semaine j'ai fait 34 places, en 30 séances, et pourquoi en une séance j'ai fait 270 places. Et c'est pareil, je sais pas, à Deauville par exemple. Deauville, j'y suis allé, à Lugat, c'était pas Deauville, mais j'étais à côté de Lugat. Deauville, c'est à 15 km de Lugat. Bon. J'ai fait le nombre 310 personnes et
à Deauville, j'ai fait 52 personnes. Ces moyennes villes où il y a par exemple que le cinéma qui existe.
Peut-être,
qui font, c'est comme tu veux.
C'est vrai, mais Cognac, c'est
beaucoup plus de ville, personnes, même en entrée annuelle, parce qu'il n'y a que aussi le cinéma.
Non, mais
cinéma,
c'est pour ça que je vous dis qu'aujourd'hui, nous sommes des tourneurs, les auteurs de cinéma, les auteurs comme nous. Il y a les Harry Potter, il y a les trucs, mais même les Chevaliers du Ciel ou les trucs comme ça, ça marche apparemment, mais ça a coûté tellement cher
que
la première semaine, c'est pour rembourser la pub. Mmh. La première semaine, et c'est la meilleure. La deuxième semaine, c'est pour rembourser le film. Et après, il n'y reste plus rien. Moi, je parlais.
Et c'est vous qui programmez pour le Brady, ou vous allez souvent en projection?
Non, je ne sais pas. Moi, j'ai un gars, un jeune, qui s'occupe de ça. Non, moi je connais pas très bien les films chinois et tout ça. Je connais pas bien, moi. Alors, je suis pas capable de choisir. Mais ce qui est très curieux au Brady, c'est que on reçoit des coups de téléphone qui sont en quelque sorte la grenouille du baromètre. C'est-à-dire que au bout de 3 semaines. Il y a le producteur d'Info Juré de Rien qui me téléphone et me dit tu peux pas prendre le film. Alors là,
pardon,
je comprends c'est toi qui que m'appelle. Le film est en train de se casser la gueule. Parce que pour qu'on me le propose au bras,
voilà,
où il va faire 200 entrées ou 300 entrées, parce que je ne passerai pas toutes les séances.
Il y a ceux qui présentent en plus. Oui, alors celui-là, allez.
Et après, il y a un autre deuxième cadeau, c'est mon film de mon ami Blié.
Le dit Yanguissour.
Non, Blié, ça y est, ils me l'ont déjà envoyé, le Blié. Et maintenant, il me parle des Chevaliers du Ciel. Il me disait, le Chevalier du Ciel pour le 2 janvier. Je ne veux pas des Chevaliers du Ciel, moi, je n'en veux pas. Je préfère un film japonais que personne ne connaît. Non, je veux dire, c'est... Je ferais plus avec un film indien ou japonais qu'avec les Chevaliers.
Vous avez fait d'ailleurs The Test of Tea, un même film.
Oui, j'ai fait plein de films, moi. J'ai plein de films.
Tu pourrais essayer de l'avoir au festival télé.
J'ai Paradis Now, un film palestinien.
Mais c'est difficile. Oui, mais je voulais le reprendre pour le festival Télérama.
Les gens viennent voir le film palestinien, Paradis Now, ils viennent le voir.
Sinon, parlons du Brady également. Est-ce que la sortie de Inside Deep Throat, le documentaire sur Gorge Profonde, a eu une répercussion sur les entrées? Parce que le Brady l'a pas mal passé.
Sur ma Gorge Profonde, mais j'ai un procès maintenant avec l'État.
Allons-y.
Avec pour Gorge Profonde, parce que l'histoire de Gorge Profonde, c'est un gars que nous connaissons bien. Qui a fait le film, qui est le propriétaire du film pour l'Europe, il nous a dit écoute, on te donne Gorge Profonde, garde la copie, puis tu le passes pour payer ta femme de ménage. Voilà, en gros, c'était ça l'idée. Parce qu'on avait des difficultés. Alors, on passait Gorge Profonde, qui est toujours X.
Oui.
Et on mettait sur l'affiche interdit au moins de 18 ans, parce que depuis 16 mois qu'on a passé des trucs comme ça, on a dit c'est Gorge Profonde, c'est un truc pour un enfant de cœur. Et alors, on n'a pas pensé qu'il y aurait
personne n'avait demandé, si vous voulez.
Il fallait qu'il repasse devant la commission de contrôle.
Voilà, qu'il redevienne interdit au moins de 18 ans. Mmh. Et quand le film mexicain là, est passé au fond brésilien avec toutes ces pornographies là, je ne sais plus comment ça s'appelle.
Bataille dans le ciel.
Oui. Alors quand c'est passé ça, moi j'ai dit, ils sont venus, ils voulaient me foutre en tôle, etc. Parce qu'on avait passé gorge profonde en mettant simplement interdit au moins de 18 ans. Alors que c'était un X. Il y a eu toute une salade avec la directrice du centre, Véronique qui est là, tout ça. Puis finalement, moi j'ai dit, écoutez, si vous me faites chier, je vais aller au monde et je vais raconter l'histoire. Et tout le monde savait que je passais une gorge profonde, je passe depuis 5 ans. Et vous le trouvez aujourd'hui que je passe ça? Après, ils nous disent, on a en fait une enquête, vous aviez 12 personnes dans la salle et vous en avez déclaré 11. Je dis, mais écoutez, vous n'avez qu'à aller voir, il y a une porte de sortie derrière les chiottes, les types, ils rentrent, ils prennent un ticket, après ils ouvrent la porte de sortie, ils font rentrer un mec. Ils posent que moi, il y en a 12 au lieu de 11.
Et ils vous sont avez vu un inspecteurs. Film que je trouve excellent, qui s'appelle Torremolinos,
c'est ah oui, 13. Ah mais on l'a passé celui-là.
Mais je vais le passer, moi, pour les vacances.
On l'a passé.
Avant la
savante de pastèque.
Mais si vous voulez, aussi une side
dip. Les inspecteurs.
Et gorge profonde en même temps.
Mais je veux bien la savante de pastèque également.
Ils ne comprennent pas qu'il y a des tricheurs, des types qui rentrent par
le type où vous prenez un ticket, vous avez votre femme qui vous attend dehors. C'est un premier film en plus.
Vous allez pisser, vous ouvrez la porte de secours, vous faites rentrer votre femme et puis ça y est, c'est fini. Et alors, les types m'ont dit, mais vous déclarez 11 personnes, il y en avait 12, une espèce de con. Viens, viens là, tu vas voir ce qui te passe. Et encore, il n'y en avait qu'un ce jour-là, il n'y avait qu'un squatter, un resquilleur, mais quelquefois il y en a 4 ou 5 de resquilleurs.
Ça mais vous l'avez vu, sinon t'aurais...
Non, mais moi, je ne peux pas voir tous les films.
Parce non, mais je sais, mais ça vaut le coup. Essayez de le voir, c'est sa première fille.
Moi, en principe,
le scénario, en
j'applique plus, un peu le système avec ce... d'Orson Welles qui disait il ne faut pas voir les films parce qu'en voyant les films, on a peut-être envie de les copier. Quelquefois, inconsciemment, on voit un film et puis on voit un plan qui est pas mal. Et dans le film suivant, on le met comme si c'était vous qui l'aviez trouvé. Non, ça, j'aime pas trop. Alors, je vois vraiment des vieux films. Des vieux films sur le câble.
Ah, moi, je préférais programmer dans le patrimoine. Très honnêtement.
Les films récents, on est obligé d'y aller.
C'est vrai que le studio programme un peu moins dans le patrimoine.
Non, mais on est obligé d'aller voir des films quelquefois. Parce qu'on est, par exemple, combien
de films. T'as des belles surprises, mais t'en as. T'en as quand même
on l'a vu combien tu m'aimes. Parce que Blié, c'est un copain, donc on est allé le voir, mais on était emmerdé parce que la fin du film n'est pas bonne. Alors, le film est pas mal au début, et puis vous arrivez à un moment et il est tombé dans le piège où on tombe tous d'ailleurs. C'est que la deuxième partie, souvent, elle est moins bonne que la première. Et voilà. Et là, il en a pour 3 ans maintenant, hein, n'a rien foutu. Parce que déjà les côtelettes ça n'avait pas marché, après il a eu du mal, les acteurs ça n'a pas marché, ça marche pas tellement. C'est dur. Hein.
Et donc les films sur Paris font une semaine, deux. Jean-Manuel Poirier, sortie western. Mmh. Et d'après, il a dû rester, je crois, une semaine.
Non, mais parce que pour rester comme moi 50 ans sur le plateau. J'ai commencé en 60, en 59. De 59 à 2005, il en est passé des choses. Et puis on finit par comprendre que le public change et il faudrait presque avoir un ordinateur pour comprendre ce que devient le public. Parce qu'il y a des gens comme vous qui connaissez pas mal de choses, mais vous êtes rares, il n'y a pas beaucoup. C'est-à-dire, il y a le cinéphile, le cinéphage et le vieux qui maintenant retourne au cinéma, seulement il n'y va pas rapidement, c'est-à-dire que le bouche-à-oreille n'existe plus. C'est-à-dire qu'on ne peut plus se servir d'un bouche-à-oreille, parce que dans le temps, un film qui avait un bouche-à-oreille, il était censé rester au moins 5-6 semaines.
Voilà, c'est ce que j'allais vous.
Mais aujourd'hui, moi je vois un vieux qui habite dans mon quartier, il avait lu un article flatteur dans Le Monde, sur mon film, Grabuge. Ah, il me rencontre dans une boulangerie, il me dit, ah oui, là j'ai lu... un truc, ah ben je vais le voir, Le Monde a fait un très bon papier, je vais y aller. Mais pour lui, qui était profane dans notre métier, Il s'imaginait que j'étais là pour un mois, enfin pour 15 jours, 3 semaines. Il s'est présenté dans le cinéma. 3 semaines après, il n'y avait plus de film. Donc le bouche à oreille. Et alors, j'ai un autre exemple. Une jeune vietnamienne qui voit le film. Elle dit, oh, je vais en parler au collège, c'est formidable votre film.
Mesdames, messieurs, le spectacle va reprendre dans quelques instants. Veuillez regagner vos places, s'il vous plaît. Merci.
C'est amusant, ça n'a jamais fonctionné, ce truc-là.
C'est ça. Et alors
non, mais à mon avis, il fonctionne pas là et pas par là-bas.
Donc, il n'y a plus de bouche à oreille. Parce que le temps que le bouche à oreille arrive, il n'y a plus de film. Alors, mais déjà que le bouche à oreille, vous n'en avez rien à secouer. Que le type sorte et dise à son copain, c'est très bien, vas-y, le type ne va pas y aller le lendemain. Toutes affaires cessantes, donc il va y aller une semaine après.
Ou le type va se dire, je le verrai de toute façon en DVD à sa sortie.
Voilà, je le verrai sur Canal+. Donc il ne se presse plus. Alors, qui sont les gens qui se pressent pour voir un film à sa sortie?
Il y en a très peu. Quand ils se pressent, ils veulent une valeur sûre.
Il y a des bistrots, les gars.
Je paie, donc je vais...
Moi, j'ai beaucoup de garçons de café. Ils sont entre 3h et 6h, ils n'ont rien à foutre. Les garçons de café, moi, c'est mon public un peu, parce qu'ils... Ils ont le break à 3h et ils reprennent à 6h ou à 7h les restaurants et tout ça. Donc ils n'ont rien à foutre entre deux. Et souvent ils habitent en banlieue, ils ne peuvent pas rentrer chez eux. Hop, ils vont au cinéma. Et moi j'ai détecté ces gens-là. Et le lundi, les coiffeurs, et le lundi. Je connais tout ça. Mais c'est pas forcé que tous les coiffeurs viennent voir mon film. Et c'est pas forcé que tous les restaurateurs voient mon film. Donc, mais il y en a une partie. Alors quelle est cette partie? Et puis il y a les fous. Comme moi, j'étais avec Truffaut, qui, à 2h de l'après-midi, quand un film qui les intéresse sort, ils sont déjà dans la salle. Ils y sont à 1h30.
Bah moi, avant de programmer, j'allais tous les dimanches.
Voilà, mais c'est comme ça.
Ici,
mais
je ne pouvais pas y aller parce que...
Mais c'est les amateurs.
Donc, j'allais aux séances de 14h, 16h.
Et maintenant, attendez, à l'UGC Hall, quand j'ai sorti mon film, je venais le matin pour voir comment était la copie. Et je vois des gens déjà qui allaient voir le film à 9h40. Il y avait une séance déjà. Alors c'était moins cher, 5€ je crois. Mais alors c'est formidable. Mais les cinéphiles, c'est les gens qui vont voir tous les films sans tenir compte des critiques, etc. Ils s'en foutent et ils disent je veux voir tel film.
C'est rare.
Et les cinéphiles, il n'y en a pas beaucoup. Et les cinéphiles, c'est ceux qui suivent Télérama.
Sinon, on a envie de Télérama.
Alors moi, Télérama, comme c'est des cadeaux,
je
ne suis pas forcément bien avec eux, de temps en temps.
Les films que je vois pas, je regarde, oh, grand sourire dans Télérama, même si je ne l'ai pas vu, je le mets. Ça me permet de faire des entrées, de passer, gérer.